sur Sois mère et tais-toi, le podcast qui dégomme les idées reçues et les injonctions sur la vie de maman. Je m'appelle Adèle, je suis moi-même maman de 4 enfants et je suis aussi coach des mamans surchargées, c'est-à-dire que je les aide à alléger leur quotidien, faire de la place dans leur agenda et mettre plus de fun dans leur vie. Toutes les semaines, je publie un épisode avec un invité ou en solo dans lequel je te partage toutes mes connaissances de coach, mais aussi ma vie de maman. Avec ce podcast, je veux t'aider à comprendre ce qui surcharge ton agenda, ce qui compte pour toi, ce qui te donne l'impression de courir sans arrêt, sans jamais réussir à te poser ou à même prendre du temps pour toi. Et je te partage les clés pour transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne, celle de ma famille et celle de mes clientes. Tu peux me retrouver sur Instagram, à Adèle Saint-Gier, mais aussi sur Telegram, c'est mon nouveau chouchou. Pour avoir mon actu toute fraîche, connaître mes programmes d'accompagnement ou juste entrer dans mon quotidien de maman, mais aussi de femme, d'amis, de sportive, de pédagogue et de tous les sujets qui me passionnent et qui méritent tous une place dans ma vie. Bonne écoute! Aujourd'hui, je te parle de vision. La vision, c'est quelque chose, c'est un outil que j'utilise dans tous mes programmes d'accompagnement. Que ce soit mon gros programme phare qui est Enjoy Mom Life, c'est un programme qui t'aide à sortir la tête de l'eau si tu es surchargée et à kiffer ta vie de maman. Ou les programmes plus petits qui sont parfois des morceaux du programme Enjoy Mom Life, comme Blanche-Neige, dis-toi que tu es belle. Je vais l'utiliser aussi dans un nouveau programme qui va sortir sur l'éducation bienveillante. La vision, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui aide beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais te le partager aujourd'hui. Parce que je pense que ça peut vraiment te permettre d'avancer vers ta vie de rêve. La vision, en fait, ça va te permettre surtout de faire le tri entre tes valeurs et les injonctions. C'est-à-dire que dans ta vie en général, tout ce qui tourne autour du « je dois », il n'y a pas énormément de choix. C'est soit une valeur profonde, soit une injonction. Et alors, ce qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est qu'en règle générale, une injonction, ça ne fait pas très envie. Quand c'est tes valeurs profondes et que ça te fait vibrer, c'est rare que ça nous surcharge. Alors que une injonction, en général, ça nous pousse à faire quelque chose qui n'est pas fondamentalement proche de nos valeurs et qui nous surcharge. Pour pouvoir te guider dans la précision de ta vision, les questions à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux retenir de ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Si tu veux préciser un petit peu, même si ça a l'air un peu glauque quand on le dit, ça va, c'est vraiment très puissant. L'idée, c'est pas de t'imaginer proche de la mort, hein, pas du tout, mais si tu imagines comment tu veux qu'on se souvienne de toi quand tu seras plus là, qu'est-ce que tu voudras qu'on dise de toi? Soit quand tu seras vieille, quand tu seras, j'aime bien moi l'image de la grand-mère chenue, j'aimerais trop être une grand-mère chenue entourée de mes enfants et de mes petits-enfants. L'autre question que tu peux te poser, c'est si tout était possible, si tu avais tout le temps que tu veux, si tu n'avais aucune contrainte, à quoi tu occuperais tes journées? Qu'est-ce que tu ferais si au lieu d'avoir 1440 minutes par jour, tu en avais 10 000, si tu pouvais mettre 3 journées en une, et si surtout si tu n'avais rien d'autre à faire, si tu n'avais que tes préoccupations importantes et profondes à faire, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Moi, je te conseille vraiment de te poser pour faire cette vision-là, de te mettre dans un coin tranquille. Moi, je l'ai fait faire en général en méditation guidée. Vraiment de te mettre dans un environnement calme. Tu peux te mettre sur un coussin de méditation si tu veux, te mettre une petite musique, éventuellement faire un scan corporel de façon à être vraiment détendu et à te mettre, à te poser toutes ces questions-là, à te projeter aussi dans l'univers de ta vie future. Quand tu seras proche de la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux ressentir? Qui tu veux avoir autour de toi, qu'est-ce que tu veux avoir fait, que veux-tu avoir accompli, pardon. Tout ça, c'est des questions hyper précieuses et qui vont te donner énormément d'informations. Ensuite, quand tu as obtenu cette vision, moi, je te propose de l'écrire. Tu peux aussi l'enregistrer en audio, comme je fais là, par exemple. Tu peux faire un mood board. Tu peux utiliser n'importe quel outil créatif que tu aimes, un bullet journal, de la peinture, je sais pas moi, de la couture, pourquoi pas. Vraiment tout ce qui te plaît, de façon à ancrer cette vision-là et surtout pouvoir te la rappeler. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'écriture. Alors, tu peux écrire sur n'importe quel format. Moi, je suis personnellement très papier, mais vraiment, si tu as envie de prendre des notes sur ton téléphone, ça pose aucun souci. Le seul truc que je te conseillerais, c'est de pouvoir le retrouver facilement. C'est aussi pour ça que j'aime bien le mood board. Je suis malheureusement mauvaise en mood board, faudrait que je m'y mette, mais parce que tu peux le mettre par exemple sur un endroit très visible, tu peux l'exposer dans ton bureau, sur ton frigo, sur ton ordinateur si tu en as un, enfin bref. Et ça te permet tous les jours d'avoir ce petit rappel de, ah ouais, c'est ça que je veux pour moi en fait. Donc, une fois que tu as trouvé vers quoi tu tends, quels sont tes rêves, quelles sont tes aspirations profondes, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants par exemple. Une fois que tu as vraiment brossé dans tous les détails ta grande vision de vie, ce que je te propose, c'est de la mettre en parallèle avec alors, plusieurs choses. La première, ça va être ta to-do list quotidienne, ce que tu fais, ce que tu penses être obligé de faire, ce que tu t'imposes ou ce que tu es obligé de faire tous les jours. Tes hyper-exigences, tu sais, les petits détails de la vie quotidienne sur lesquels on lâche pas prise, parce qu'on, des fois parce qu'on a commencé et puis qu'on continue, ou des fois parce qu'on souvent se dit bah, « je dois le faire ». Vraiment tes petits points d'hyper-exigence qui sont souvent assez personnels. C'est toi qui les as et pas forcément les gens qui sont autour de toi. Tes valeurs éducatives. Ce que tu veux transmettre dans ton éducation à tes enfants, et l'image que tu renvoies de toi, l'image que les autres voient de toi. Donc, mets en parallèle ta grande vision avec tout ça, et ce que cet exercice va te permettre de mettre en évidence, c'est du coup de détacher ce qui... Enfin, de t'aider en tout cas à détacher ce qui est de tes valeurs profondes et ce qui ne l'est pas. Tu vas pouvoir voir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément en accord, que tu fais tous les jours, et qui ne sont pas forcément en accord avec ta grande vision de vie. Il va y avoir du surplus. Il y a des choses qui t'encombrent la vie, qui t'encombrent l'agenda, qui sont là parce que tu te les as imposées, parce que tu te les as laissées imposer, et qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux, toi. Et donc... L'idée après, tu me vois venir avec mes gros sabots, je suis sûre, c'est de t'en débarrasser. Puisque ce surplus-là, c'est le dans 80% des cas, ça fait partie de ta surcharge mentale. Donc vraiment, si tu peux l'abandonner, n'hésite pas. Je vais te donner plusieurs exemples. Alors, peut-être que tu les as déjà entendus, hein, parce que c'est des exemples assez typiques. Et c'est des exemples, enfin oui, il y a plusieurs exemples qui ont été faciles à objectiver pour moi. Le premier, c'est le rangement. Je me mettais une pression incroyable pour que ma maison soit rangée tout le temps, rangée le plus possible, et surtout rangée avant que des gens viennent voir ma maison. Quand on a emménagé, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait et qui n'avait jamais vu cette maison, je te raconte pas le branle-bas combat. Il fallait que tout soit rangé nickel. J'allais même allumer les petites lumières qui font bien quand c'était la nuit pour que la visite soit magnifique. Enfin, c'était un truc de fou. Et quand j'ai travaillé sur moi, quand j'ai fait mon coaching en développement personnel, je me suis rendu compte que, enfin, je le savais, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une antinomie totale entre le rangement et ma vision de vie, parce que moi je suis fondamentalement bordélique, c'est-à-dire que le bazar ne me dérange absolument pas. Enfin, ça dépend des moments, mais je peux vivre très bien avec et continuer à travailler avec un bureau complètement encombré, entrer dans la chambre de mes enfants où si j'ai la place de passer tout va bien. C'est chiant quand je suis obligée de nager le crawl, mais sinon ça me va. Ce qui va me déranger, c'est la surcharge de choses. En sachant que je suis pas minimaliste, hein, donc on a un bon level pour la surcharge, mais j'aime pas les choses qui ont pas de place, que je ne peux jamais ranger, par exemple. J'aime pas non plus la saleté. Du coup, ranger pour que ce soit propre et pouvoir ranger de temps en temps, c'est important pour moi, mais ranger pour ranger et pour que la maison soit toujours nickel, je n'en ai absolument rien à faire. Et quand j'ai regardé le temps que je perdais à ranger, à me prendre la tête avec mes enfants pour qu'ils rangent, à polluer mon cerveau de « Ah là, on va recevoir du monde, il va falloir que ce soit tout rangé nickel. » Cette année à Noël, c'est la première fois que je n'ai pas rangé ma maison avant que 20 personnes arrivent chez moi. Et il faudrait que je mène l'enquête, ce serait intéressant. Mais je suis à peu près convaincue que personne ne s'est aperçu de la différence. Donc, quand j'ai lâché complètement prise sur cet item-là, j'ai déjà gagné plusieurs heures dans ma semaine. Ça m'a aussi libéré énormément d'espace mental dans ma tête et de stress. Parce que de problèmes relationnels avec les autres, avec mes enfants notamment, quand je les forçais à ranger. Et l'autre item auquel je me suis attaquée après, qui était un peu plus challengeant pour moi, c'est le suivi scolaire de mes enfants. D'abord, c'était plus challengeant pour moi parce que je ne suis pas toute seule sur ce thème-là. Il y a les enfants d'une part, leur difficulté ou leur absence de difficulté, et puis il y a leur papa qui a aussi un pouvoir décisionnaire sur cette question-là et qui n'est pas toujours d'accord avec moi. Et finalement, ma valeur profonde, mais vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'un point de vue éducatif, c'est que mes enfants soient responsables, qu'ils soient autonomes. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose vers lequel je les pousse depuis qu'ils sont tout petits, et dès que je peux, je les pousse à l'autonomie. Alors, pour me décharger aussi en partie, puisque tout ce qu'ils font eux-mêmes, c'est toujours ça de moins à faire. Tout ce qu'ils font eux-mêmes, c'est toujours ça de moins à penser pour eux. Et puis parce que vraiment, je tiens à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire que pour moi, l'éducation, c'est vraiment le sens étymologique du terme. Éduquer, ça veut dire conduire dehors. Moi, ce que je veux, c'est que dehors, ils sachent se débrouiller tout seuls. Alors, il y a des choses qui vont apprendre sur le tas et ça va être compliqué pour eux parce qu'il y a des choses qui ne font pas du tout à la maison. Mais globalement, ça fait partie d'une de mes valeurs fortes, de responsabiliser les enfants. Et donc, d'être sans arrêt derrière eux au niveau du travail scolaire, surveiller ce qu'ils font, surveiller qu'ils ont leur matériel, surveiller qu'ils aient de bonnes notes, ça correspondait pas du tout, mais pas du tout, avec ma vision de vie, avec cette valeur-là. Et donc, il a fallu que petit à petit, j'arrive à lâcher prise avec toujours cette trouille. Alors, moi, je l'avais moins que mon mari, mais cette trouille qu'ils ne réussissent pas à l'école, finalement, parce qu'on se dit, mais si on n'est plus derrière, qu'est-ce qui va se passer? Et sauf que je me suis rendu compte, notamment avec mon aîné, que moins j'étais derrière. Alors déjà, plus ses résultats sont les siens, finalement, et pas les miens. Donc plus on est aligné, et puis surtout, plus il travaille. Ça peut paraître assez dingue tant qu'on ne l'a pas testé, mais plus les enfants sont autonomes et responsables, plus on les confronte à ce que ça va donner s'ils ne travaillent pas, c'est-à-dire aux conséquences directes de leur travail scolaire, et plus ils bossent spontanément. Alors ça dépend aussi de l'âge, c'est-à-dire que pour l'instant en tout cas, j'ai remarqué, étant donné qu'ils sont 4 et 4 personnalités différentes, ça me permet d'avoir un avis à peu près extérieur, mais ça peut changer. Hein. La primaire, ça se passe pas trop mal. Ils ont besoin d'aide jusqu'à un certain point, puis après je peux les lâcher et ils ont absolument plus besoin de moi. Au collège, c'est compliqué aux alentours de la 4e, mais ça, on le sait, c'est physiologique, c'est une période chez l'adolescent où on a l'impression qu'ils sont un peu mous du bulbe. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'ils ont un cerveau qui est complètement en chantier, qui va se réajuster à ce que demande la vie d'adulte, et que vraiment, vraiment, ils ont une capacité de compréhension qui est parfois, sur certains items, inférieure à celle d'un enfant de 7 ans. Et Malheureusement, le collège, en tout cas français, s'adapte pas du tout à ce changement-là et continue à demander de plus en plus de résultats et de travail et de niveau aux collégiens. Alors, ça dépend des endroits, hein, mais moi, je trouve qu'ils demandent énormément de travail aux collégiens à une période où ils sont physiologiquement pas capables de la fournir. Et donc, pour moi, à cette période-là, il faut patienter. Lâcher prise, attendre un peu, qu'ils arrivent à comprendre tout seuls comment ils sont capables de travailler, comment fonctionne leur mémoire, qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qui leur permet d'apprendre, qu'ils fassent leurs propres essais, qu'ils aient leurs propres échecs. Malheureusement, ça fait partie du jeu, mais. Et qu'ils avancent comme ça petit à petit. Et d'après ce que j'ai vu, en tout cas chez mon aîné, la lumière se rallume, on va dire, fin de troisième, début de seconde, donc vers 15-16 ans. Et là, ça roule. Surtout si avant, tu as mis tous les jalons pour qu'il soit vraiment responsable et autonome. Après, ça roule. Et même, ça roule. C'est-à-dire que mon grand, qui franchement est arrivé en fin de troisième au brevet, il n'a rien glandé. Quand je te dis rien glandé, c'est rien, quoi. Il a de la chance d'avoir énormément de facilité. Sinon, je pense qu'il aurait raté son brevet. Il l'a eu en plus avec une mention, hein, mais il en a vraiment fait le minimum. Et là, maintenant qu'il est en première, c'est moi qui le freine, qui lui dis hey, on se détend, hein. T'as 16,5 de moyenne, tout va bien, c'est pas la peine de stresser. Et un des trucs que je te livre, c'est un peu une aparté, mais un des trucs qui m'a aidée, c'est quand j'ai discuté avec une amie à moi qui est prof de maths en prépa, et qui m'a dit, ce qu'il faut bien te dire Adèle, c'est que les dossiers de Parcoursup, par exemple, on ne regarde que les notes et les appréciations de première et de terminale. Elle m'a dit même la seconde, on n'y a pas toujours accès. Alors ça dépend des filières, mais en tout cas, pour la plupart, ils vont pas aller fouiner dans le dossier de primaire et du collège. S'il y a eu une année ou deux qui était un peu plus difficile, avec un peu moins de travail, pour moi, c'est pas dramatique. Donc vraiment, le suivi scolaire... j'allais dire militaire, c'est un peu vache comme mot, on va dire précis, qui demande beaucoup de temps, c'était pas du tout dans mes valeurs. Donc, petit à petit, en faisant mes essais, mes ajustements, ça je l'ai zappé de mon agenda. Et alors, autant te dire que sur 4 enfants, ne pas avoir à surveiller, mais quand je te dis pas surveiller, c'est-à-dire que donc à partir du fin de CE2, début de CM1, je commence juste à dire « T'as fait tes devoirs ? Ok. Tu sais tes leçons ? T'as besoin de moi ? Non. Je reste là. » Je leur dis toujours que j'ai besoin de moi, mais je m'en tiens là. Des fois, je leur demande même de savoir ce dont ils ont besoin comme fourniture scolaire. C'est-à-dire que si ils me préviennent pas à l'avance qu'ils ont plus certaines choses, ben, désolé, tu l'auras pas pour demain. On ira le chercher demain, mais là, j'ai pas le stock. Il fallait m'en parler avant. Je peux pas deviner. Vraiment, ils sont totalement responsables de ce qui se passe à l'école, au collège. Mon petit qui est en CM2, là, mon troisième qui est en CM2, depuis début d'année dernière, je ne sais pas ce qu'il a à faire comme devoir. J'en ai pas la moindre idée. Je regarde absolument pas. Alors cette année, ces enseignantes me demandent de signer absolument toutes ces évaluations et même des fois des leçons. Enfin, je signe, hein, mais pour dire. Je reçois encore des mails de changement de classe. Alors du coup, je suis obligée de trier ce qui vraiment m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. Mais tout ce qui peut rester sous leur responsabilité, je ne m'en occupe pas. Vraiment, des fois, je fais des petits rappels. Ah, t'as lu ce mail sur École Directe, t'as eu cette info. Mais c'est tout ce que je fais. Et même, ça m'arrive du coup que ce soit eux qui me disent « Maman, t'as pas vu ça, c'était à toi de le remplir. » Ah oui, pardon, effectivement, je m'en occupe. Et du coup, je n'ai que le quatrième à encore aider sur les devoirs, sachant qu'il est en CE1. Et en début d'année, j'ai toujours un tabouret à poser à côté de son bureau pour pouvoir être avec lui tout le temps, l'aider même à écrire, maintenir sa concentration. Enfin, c'était vraiment du suivi précis et lourd. Et là, déjà, on est en janvier, hein, milieu de CE2, de CE1, pardon, ça commence à aller mieux. Je commence à lui dire, tu fais tel exercice, et il vient me chercher quand il bug. Alors, il bug souvent, il est quand c'est 1, mais déjà, la démarche est différente, et donc, même si pour lui, ça paraissait très difficile au départ, notamment parce qu'en plus, il est dysgraphique quand même, franchement, je vois ça arriver sur la même pente que les autres, et je commence à me dire que déjà, le CE2 sera plus tranquille, et que début de CM1, je n'aurai plus de devoirs à gérer. Si tu as des devoirs à gérer, je pense que tu vois quel volume horaire et quel stress et quelle charge mentale va d'un coup se dégrever sur mon planning et potentiellement sur le tien si tu arrives à faire ça. Alors c'est un exemple, hein, la gestion des devoirs. J'ai fait plusieurs épisodes sur cette question et je t'en parle souvent. J'ai mon avis sur la question. Je respecte totalement tous les avis sur cette question et je ne te dis pas que les devoirs, c'est à lâcher tout de suite dans ton cas. Si ça ne correspond pas à ta vision de vie, comme moi, ça vaut le coup d'aller creuser et de voir comment tu peux faire petit à petit pour lâcher cet item-là. Sinon, au contraire, garde-le. C'est vraiment, c'est très personnel, la vision de vie. Et ce n'est pas à justifier, ce n'est pas à critiquer. Ce sont tes valeurs propres. En plus, parfois, elles ne sont pas forcément celles de ton conjoint ou ta conjointe. Et ça aussi, c'est OK, on a le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs et les mêmes besoins et les mêmes envies. Au contraire, c'est hyper riche. Et heureusement qu'on se respecte les uns les autres et encore plus dans un couple, qu'on respecte les valeurs de l'autre et qu'on est OK avec le fait que ce ne soit pas les mêmes que les nôtres. Pour moi, ça, c'est très important. Mais tes valeurs, elles sont hyper personnelles. C'est elles qui vont te guider et c'est pour ça que je te propose vraiment de les identifier pour toi et toi seul, vraiment en introspection. Parce que aller calquer des valeurs des autres, ça va pas fonctionner pour toi. Ça va se transformer en injonction, ça va être lourd, ça va être compliqué et ça va pas te convenir. Donc voilà à quoi ça sert une vision de vie. Ça sert à créer la vie que tu recherches, qui est intéressante pour toi, une vie qui correspondent à tes valeurs, qui te mettent en joie, une vie qui soit alignée avec ton être profond, déjà. Et ça sert aussi, pour moi, à, du coup, éliminer ce qui, en chemin, ne sert pas cette vision-là, ces valeurs-là, et qui, du coup, puisque ça ne sert pas ta vision, ça va te surcharger, forcément. D'une part, parce que c'est du surplus, et que même sans ce surplus, en termes de charge, c'est bien suffisant. Et en plus, parce que comme ça ne correspond pas à tes valeurs, ça va être très compliqué d'y mettre du fun, d'y mettre de la légèreté, d'y trouver du sens aussi, parce que ça ne fait pas partie de tes valeurs. Donc, ben, trouver du sens à quelque chose qui ne te correspond pas, c'est complètement impossible même. Donc vraiment, pour moi, identifier ta vision dans tous les domaines, c'est hyper hyper précieux, c'est pour ça que je voulais absolument te partager ça aujourd'hui. N'hésite pas à le mettre en pratique tout de suite et à me faire tes retours. Ciao! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter, commenter, mettre des cœurs et des étoiles, partager autour de toi. Tous les retours sont bienvenus pour m'aider à faire connaître ce podcast. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas à quel point tu es merveilleuse.